Désolé. Bonjour à tous. Nous bénissons Dieu qui nous donne ce privilège que de nous tenir derrière cette chaire pour apporter sa parole. Toute notre gratitude aussi à notre pasteur Joseph Bondo pour cette marque de confiance, ainsi qu'à tout le comité de l'Église. Si ça ne vous dérange pas en ce matin, j'aimerais que nous puissions ouvrir nos Bibles dans le livre de Nombres, au chapitre 13, où nous allons faire quelques lectures, et puis nous passerons au chapitre 14, où nous lirons également quelques versets. Nombres, chapitre 13, les versets 1 à 3, les versets 17 à 20, 26 à 33, et j'indiquerai à chaque fois, pour que nous ne puissions pas tout lire tout le chapitre, on va un peu s'intéresser à quelques versets. L'Éternel parla à Moïse et dit, « Envoie des hommes pour explorer le pays de Canaan que je donne aux enfants d'Israël. Tu enverras un homme de chacune des tribus de leur père, tous seront des principaux d'entre eux. » Moïse les envoya du désert de Paran, d'après l'ordre de l'Éternel. Tous ces hommes étaient chefs des enfants d'Israël. Moïse les envoya du désert de Paran, d'après l'ordre de l'Éternel. Tous ces hommes étaient des chefs des enfants d'Israël. Moïse les envoya pour explorer le pays des Canaans et leur dit, « Montez ici, c'est le verset 17, par le midi, et vous monterez sur la montagne. » Verset 18, « Vous verrez le pays, ce qu'il est, et le peuple qui l'habite, s'il est fort ou faible, s'il est en petit ou en grand nombre, ce qu'est le pays où il habite, s'il est bon ou mauvais, ce que sont les villes où il habite, si elles sont ouvertes ou fortifiées, ce qu'est le terrain, s'il est gras ou maigre, s'il y a des arbres ou s'il n'y en a point, ayez bon courage et prenez des fruits du pays. » C'était le temps des premiers raisins. Verset 26. À leur arrivée, ils se rendirent auprès de Moïse et d'Aaron et de toute l'assemblée des enfants d'Israël à Kadès dans le désert de Paran. Ils leur firent un rapport ainsi qu'à toute l'assemblée et ils leur montrèrent les fruits du pays. Voici ce qu'ils racontèrent à Moïse. Nous sommes allés dans le pays où tu nous as envoyés. À la vérité, c'est un pays où coule le lait et le miel, et en voici les fruits. Mais le peuple qui habite dans ce pays est puissant. Les villes sont fortifiées, très grandes. Nous y avons vu des enfants d'Anak. Les Amalécites habitent la contrée du Midi, les Éthiens, les Jébusiens et les Amoréens habitent la montagne, et les Cananéens habitent près de la mer et le long du Jourdain. Caleb fit taire le peuple qui murmurait contre Moïse. Il dit, « Montons, emparons-nous du pays, nous y serons vainqueurs. » Mais les hommes qui étaient avec lui dirent, « Nous ne pouvons pas monter contre ce peuple, car il est plus fort que nous. » Et ils décrièrent devant les enfants d'Israël le pays qu'ils avaient exploré. Ils dirent, « Le pays que nous avons parcouru pour l'explorer est un pays qui dévore ses habitants. Tous ceux que nous avons vus sont des hommes d'une haute taille. Et nous y avons vu les géants enfants d'Anak, de la race des géants. Nous étions à nos yeux et à leurs yeux comme des sauterelles. » Chapitre 14, verset 1. Toute l'assemblée éleva la voix et poussa des cris, et le peuple pleura pendant la nuit. Verset 4. Ils se dirent l'un à l'autre, nommant un chef et retournant en Égypte. Verset 7. Ils parlèrent ainsi à toute l'assemblée des enfants d'Israël. Le pays que nous avons parcouru pour l'explorer est un pays très bon et excellent. Si l'Éternel nous est favorable, il nous mènera dans ce pays et nous le donnera. C'est un pays où coule le lait et le miel. Seulement, ne soyez point rebelles contre l'Éternel et ne craignez point les gens de ce pays,
car ils nous serviront de pâture. Ils n'ont plus d'ombrage pour les couvrir. L'Éternel est avec nous, ne les craignez point. » Toute l'assemblée parlait de les lapider lorsque la gloire de l'Éternel apparut sur la tente d'assignation devant tous les enfants d'Israël. Ma deuxième lecture, c'est dans les livres, le livre de Josué, au chapitre 2, le verset 9. Beaucoup d'années après cette mission de prospection, alors même que Josué est en train d'envoyer les deux espions dans la concrétisation de cette mission, la Bible dit, verset 9, ce sont les paroles de la dame chez qui les espions sont allés se réfugier, se cacher. Elle leur dit, « L'Éternel, je le sais, vous a donné ce pays. La terreur que vous inspirez nous a saisis, et tous les habitants du pays tremblent devant vous. » Amen. Seigneur notre Dieu, je prie que tu bénisses ta parole en ce matin, qu'elle soit une nourriture spirituelle pour nos âmes. Alors que nous allons utiliser des mots simples, des mots de chaque jour, j'aimerais que ce soit plutôt une nourriture qui va nous porter pour le temps et pour l'éternité. Donne vie à chacun de ces mots et qu'un homme, qu'une femme soit relevé, qu'un homme, qu'une femme soit révélé et que quelque chose de nouveau commence pour quelqu'un. Au nom de Jésus, amen. Aujourd'hui, j'aimerais partager la parole de Dieu autour de ce thème. La foi qui renverse les géants. J'aimerais parler de la foi qui renverse les géants. Le texte que nous avons lu, celui de Nombre et celui de Josué, décrivent la même situation, mais à deux temps différents. Ceux qui devaient faire la mission de prospection le font beaucoup d'années avant, et au moment de la récolte, au moment de la concrétisation, on entend dans la bouche de Rahab, qui était une habitante de ce pays, une information extraordinaire. Que les gens qui ont peur de vous, nous aussi on a peur de vous. Je ne sais pas si quelqu'un me comprend. Il y a des années avant, les enfants d'Israël étaient partis en mission. Ils avaient vu des géants, ils avaient vu des hommes forts, ils avaient vu des personnes qui les ont impressionnés. Ils avaient peur d'eux. Mais ce qu'ils ne savaient pas, c'est que ceux dont eux avaient peur, eux aussi avaient peur d'eux. Et que cela se produisait de par la force de l'Éternel qui avait lui-même répandu cette crainte dans ce pays-là. La terreur que vous inspirez nous a saisis. Oh, des fois nous ne nous connaissons pas. Des fois nous n'avons pas la vraie révélation de ce que nous sommes. Et combien il est beau d'écouter comment est-ce que votre adversaire est en train de vous décrire. Pendant que vous vous prenez pour un chétif, pour un moins que rien, l'adversaire a sérieusement peur. Aujourd'hui, j'aimerais partager sur la foi qui renverse les géants. Le pasteur nous a beaucoup prêché. Si vous avez remarqué, si vous faites une certaine comptabilité, vous remarquerez que chaque mois, il n'a pas arrêté de nous prêcher, de nous parler de la foi. Bien-aimés, parce que la foi, c'est capital. Nous ne pouvons pas être chrétiens si nous n'avons pas la foi. Et encore dans ce monde où il y a toutes sortes de combats, il y a toutes sortes de luttes, si nous n'avons pas la foi, bien-aimés, nous n'irons nulle part. La foi est un des sujets les plus importants dans la Bible et j'aime beaucoup cette illustration que j'utilise pour la foi lorsque les prophètes sont en train de parler. Ils parlent de l'amour de la femme de la jeunesse. Vous savez, la femme de la jeunesse, c'est l'expression, une des expressions les plus fortes de la foi. Parce que la femme de la jeunesse, c'est la femme qui croit en quelqu'un qui n'a rien. Je ne sais pas s'il y a des gens qui se sont mariés jeunes ici. Non, levez bien la main, vous êtes mariés jeunes. Ceux qui ont rencontré leur femme, ils étaient étudiants. Vous aviez quoi? Je vois même un couple qui lève la main ensemble. Vous aviez quoi? C'est facile d'aimer un homme qui a une maison. C'est facile d'aimer un homme qui a une voiture. C'est facile d'aimer un homme qui a un compte en banque. Mais les femmes qui ont pris les risques d'aimer un homme qui n'a rien. C'est pourquoi la Bible dit, sois fidèle à la femme de ta jeunesse. Parce que quelqu'un qui a cru en toi quand tu n'avais rien, quand tu n'étais rien. Alors maintenant, ne fais pas semblant. N'oublie pas la femme de ta jeunesse. Des fois, j'aime taquiner ma femme pour dire, je ne sais pas qu'est-ce qu'elle voyait. Quel risque! C'est un de nos enfants, notre fille, qui un jour regarde une de mes photos et me dit, mais papa, mais qu'est-ce que tu étais mince! On dirait pas toi. J'ai dit, mais ça, c'est carrément m'insulter. Mais il y a quelqu'un qui a cru en moi. Il y a quelqu'un qui avait la foi. Que cet homme mince, je peux bien le gérer. Alléluia. C'est pourquoi j'aime dire qu'il y a des gens qui sont de teint sombre aujourd'hui. Peut-être que ce sont vraiment des métis. Tout ce qu'il leur faut, c'est quelqu'un. Quelqu'un de bien qui va croire en vous. Quelqu'un pour qui vous allez devenir un rêve et qui va le concrétiser. J'ai envie de le dire en lingala. Ozarano mutamunene. Ne te complexe pas. Tamu supo zarano mutamuke. Fokutakana mutaokonde sayo. Amen. La foi, c'est un des sujets forts de la Bible. Et dans cette histoire, nous voyons le peuple d'Israël qui est en train d'aller. Ils avaient reçu des grandes promesses de Dieu. Il devait conquérir des terres. Mais Dieu est magnifique. Il avait donné une promesse pour les terres. Mais cette fois-là, il donne des directives. Le plus souvent, nous nous concentrons sur les promesses. Nous avons reçu telle révélation. Comme le pasteur nous l'a prêché, un réma, une directive de Dieu. Gloire à Dieu. Mais après, c'est le même Dieu qui avait donné la promesse qui dit à Moïse, envoie-les faire un tour, d'organiser une mission de reconnaissance. Bien-aimé, ce n'est pas moins spirituel. Quand vous avez la promesse de Dieu de faire une mission de reconnaissance, vous pouvez m'aider à dire mission de reconnaissance. Gloire à Dieu. La mission de reconnaissance, c'est quoi? C'est Moïse qui dit aux enfants d'Israël, donnez-moi 12 chefs représentant chacune des tribus d'Israël. Et chaque tribu envoie un chef. Ils vont en prospection. Ils se rendent au pays que Dieu leur avait promis. Je vais bien l'expliquer. Ils sont ici et ils vont là où ils seront demain pour voir comment ils seront là où ils seront demain, mais ils ne sont pas encore là. Et c'est une des expressions la plus forte de la foi qui nous permet de posséder aujourd'hui ce que nous aurons demain. De croire en la réalisation des choses que nous n'avons pas encore. Ils vont voir le pays que Dieu leur a donné. Moïse était précis. Il leur a dit, j'aimerais que vous puissiez voir le pays. Regardez s'il y a des portes, si c'est un pays clôturé, si c'est barricadé, fortifié, comme le dit la Bible. Vous verrez le peuple. S'il est fort, s'il est faible, s'ils sont nombreux, s'ils sont en petit nombre, vous allez voir le terrain, les escarpements, les pentes, s'il y a des montagnes. Comme ça, lorsque nous allons lancer l'attaque, nous saurons comment nous en tenir. Mais Moïse insiste, il dit, vous partez, vous revenez, mais s'il vous plaît, n'oubliez pas, ramenez des fruits, ramenez des preuves de ce que vous avez vu là-bas. Nous voulons pas seulement des histoires, mais nous voulons que tu nous donnes un témoignage. Il dit, ah, ok. Ils partent. Ils arrivent sur les lieux. Nous avons lu le long texte. La Bible dit qu'à leur retour, ils viennent rendre compte à Moïse. Ils disent à Moïse devant le peuple, Moïse, c'est un pays magnifique. Ils emploient un mot fort, ils disent, à la vérité. C'est un pays où coule le lait et le miel. C'est-à-dire, quand vous regardez le pays, oh Moïse, Dieu, ce qu'il nous a promis, c'est vraiment un pays magnifique. Ils ajoutent cependant, mais le peuple qui habite ce pays est puissant. Ce peuple, ce sont des géants. Aujourd'hui, j'aimerais parler sur la foi qui renverse les géants, parce que justement, dans la vie de chaque jour, nous rencontrons des géants. Comme ces enfants d'Israël affrontèrent des géants, ou devaient affronter des géants, les géants habitaient ce pays. Les habitants de ce pays n'étaient pas des hommes chétifs, c'était des géants. Les géants existent réellement sur le plan spirituel, mais à cette époque de la Bible, il est mentionné plusieurs fois qu'il y avait des géants, des hommes grands de taille. Mais il ne s'agit pas d'hommes qu'on a aujourd'hui. Vous savez, il y a ce qu'on appelle les répertoires, l'homme le plus élancé, la femme la plus forte, ainsi de suite. Si vous allez dans les Guinness Records, vous allez voir, il y a un homme, je pense, qui détient le record aujourd'hui. Il est un Kurde, 2,60 m à peu près. Il est l'homme le plus élancé au monde actuellement. Il a le record depuis 2009. Mais je ne vous parle pas d'homme élancé, je vous parle des géants. Parce que à la différence des géants, les hommes élancés, quand ils se marient, ils font des enfants normaux. Mais les géants, eux, quand ils avaient des enfants, leurs enfants étaient aussi des géants. Et c'était un peuple de géants. Si bien que lorsque les enfants d'Israël les regardent, ils disent, nous étions à leurs yeux et à nos propres yeux comme des sauterelles. Je me suis toujours posé la question, est-ce qu'ils avaient emprunté leurs yeux pour se voir? Comment ils ont vu, comment on les voyait? Je ne sais pas si vous me comprenez. Comment tu peux dire que nous étions à leurs yeux? Il y a des choses qu'on ne peut pas faire. Vous pouvez parler des parfums, vous pouvez parler des images, mais vous ne pouvez pas parler de ce que les yeux de quelqu'un d'autre a vu. Mais les enfants d'Israël avaient été tellement impressionnés. Je vais utiliser le mot, ils étaient intimidés par les géants. Ils se sont dit, ah, en tout cas, quand nous nous regardons, et quand nous les regardons, nous sommes des chétifs, nous sommes des sauterelles. Bien-aimés, je ne sais pas si vous avez déjà eu à affronter des géants. Je ne sais pas si aujourd'hui vous êtes en train d'affronter des géants. Je ne sais pas si c'est dans votre vie de sainteté, dans votre relation avec Dieu, que vous êtes en train d'affronter des géants. Je ne sais si c'est dans votre santé, terrassée par la maladie, que vous êtes en train d'affronter les géants. Je ne sais quel est le géant contre lequel vous êtes en train de se battre. Je ne sais pas si c'est un géant unique ou si ce sont des géants en groupe. Mais j'ai une bonne nouvelle pour nous en ce matin, c'est que la foi véritable finit toujours par renverser les géants parce que tous les géants ont des dates d'expiration. Chaque géant a sa date d'expiration. Chaque géant a nécessairement son jour où il va finir son règne. Le problème des géants, c'est qu'ils sont sûrs qu'ils sont tellement grands et qu'on ne peut rien leur faire. Mais l'homme de foi, quand il regarde le géant, il se dit, il est tellement grand que je ne peux pas le rater. Il est tellement grand que je ne vais jamais le rater. Il est tellement grand que quand il tombera fort. Je pensais que tu dirais amen. Les hommes reviennent. Ils sont impressionnés par les géants. Quand vous regardez une situation qui vous dépasse, vous regardez, vous n'avez pas de ressources. Vous n'avez aucun moyen de vous en sortir. Il y a des situations que nous traversons dans la vie qui ne vont pas se réparer avec de l'argent. Ça fait tellement mal d'assister à cette pandémie où l'humanité entière est impuissante. Des hommes riches, quand nous suivons les informations, très riches, ils auraient pu acheter un autre corps. Avec l'argent qu'ils ont, si on commençait à fabriquer des poumons, ils iraient s'acheter des poumons, ils iraient s'acheter des nouveaux reins. Mais bien aimés dans le Seigneur, il y a des situations, quand nous les traversons, nous-mêmes, nous nous regardons tellement petits, nous disons, nous sommes impuissants. Les enfants d'Israël, la Bible le dit, dans le texte que nous avons lu, ils disent au verset 31, « Les hommes que nous avons vus, nous ne pouvons pas monter contre ce peuple. Il est plus fort que nous. » Si vous pouvez le souligner dans votre Bible, je vais commencer à prêcher. Ce matin, peut-être, je ne prêcherai pas à tout le monde, mais j'aimerais parler, m'adresser à quelqu'un qui passe par une situation où lui-même se dit « Il est plus fort que moi ». Pour ceux qui passent par des situations où ils se rendent compte qu'ils luttent contre quelque chose qui est plus fort que soi-même. Vous êtes-vous déjà retrouvé dans une situation où vous dites « Je me bats contre quelque chose, contre quelqu'un, contre quelques institutions, quelques situations qui me dépassent. » Et que dans vos prières, vous dites en lingala, Nzambe, balekinga makasi. Je ne suis pas venu scander des messages de victoire dont nous avons souvent l'habitude en tant que chrétiens. On confesse qu'on est fort, on confesse qu'on est plus que vainqueur, gloire à Dieu, mais vous savez, quand vous vous retrouvez tout seul, vous en pleurez jour et nuit et dans l'intimité de votre cœur, vous le savez, ils sont plus forts que toi. Ils sont plus forts que toi de jour, ils sont plus forts que toi de nuit, ils sont plus forts que toi dans ton sommeil. Et même quand tu en rêves, tu rêves qu'on t'a tabassé et tu te réveilles, tu es troublé. Bien-aimé, parlons franchement, il y a des situations où tu te réveilles, où tu te poses des questions et tu dis, Seigneur, comment est-ce qu'ils sont plus forts que moi? Peut-être que vous qui gagnez toujours ce message, ce sera comme des informations que vous auditionnez. Mais j'aimerais m'adresser à quelqu'un qui lutte contre ce qui est plus fort que lui. Que ce soit le péché que vous n'arrivez pas à abandonner, que ce soit l'amour de Dieu que vous n'arrivez pas à manifester, ou que ce soit des besoins de la vie de chaque jour, là où vous échouez régulièrement. Les géants nous intimident, les géants nous font peur. Mais je les rappellerai à chaque instant pendant que je prêche, tous les géants ont leur date d'expiration. Tous les géants ont leur date d'expiration. N'oublie pas, quand tu tiens une boîte de conserve, tu retournes, tu vas trouver en bas, il y a une date d'expiration. Si tu prends les géants, tu les retournes, tu vas voir, il y a une date d'expiration. Et j'ai une bonne nouvelle pour toi, c'est aujourd'hui sa date d'expiration. Est-ce que tu peux dire un amen? Dans Deutéronome, chapitre 9, le verset 1 à 3, Moïse est en train de parler aux enfants d'Israël. Il est en train d'organiser la conquête que Josué va réaliser plus tard. Il leur dit au verset 1, 2 et 3, « Écoute Israël, tu vas aujourd'hui passer le Jourdain pour te rendre maître de nations plus grandes et plus puissantes que toi, des villes qui sont grandes et fortifiées jusqu'au ciel, d'un peuple grand et de haute taille, les enfants d'Anak que tu connais et dont tu as entendu dire qui pourra tenir contre les enfants d'Anak. Sache aujourd'hui que l'Éternel ton Dieu marchera lui-même devant toi comme un feu dévorant et c'est lui qui les détruira, qui les humiliera devant toi, et tu les chasseras, et tu les feras périr promptement, comme l'Éternel te l'a dit. Amen. De la bouche de Moïse sort cette vérité. Moïse le dit, que tu vas te rendre maître de ce qui est plus fort que toi. Aujourd'hui, j'aimerais aussi m'adresser à ces personnes qui ont des promesses qui ne les ressemblent pas. À ceux qui ont des promesses trop grandes, j'aimerais dire un mot très actuel, incompatible. C'est-à-dire, quand vous regardez et vous regardez la promesse, vous avez l'impression que c'est incompatible. J'aimerais m'adresser à vous. Parce que ce qui se passe aux enfants, avec les enfants d'Israël, lorsqu'ils reviennent, c'est que le premier groupe composé de 10 personnes, près de 86%, 10 sur 12, ils sont d'accord que le pays est bon. Ils sont d'accord que le pays est riche. Mais ils disent que les gens qui habitent là sont trop forts. Ils se basaient sur des faits réels. Souvent, nous les jugeons durement. Mais bien-aimés, quand vous regardez quelqu'un qui est plus élancé que vous, c'est comme si vous avez un bébé qui veut se battre contre moi. Le bébé lui-même se disqualifie. Mais le problème de nos 10 amis, les 10 espions, c'est que leur interprétation des faits n'était basée que sur la rationalité. Ils se basaient sur la réalité des faits, alors que les deux autres se basaient sur la vérité de la parole de Dieu. Parce qu'il y a une chose qui est la réalité, il y a une autre chose qui est la vérité. La réalité, c'est qu'ils sont plus forts que toi. La vérité, c'est que Dieu a dit que tu seras vainqueur. La réalité, c'est que tu es malade et que ta santé est en train de se détériorer. La vérité, c'est que Dieu a dit qu'il te guérira. La vérité l'emporte sur la réalité. Et je prie que quelqu'un, ce matin, se positionne du côté de la vérité. Parce qu'il est écrit que si nous croyons à la vérité nous affranchira. Et le problème de plusieurs chrétiens aujourd'hui se retrouve là, comme ces 10 espions. Ils sont trop rationnels. Ils sont trop A plus B égale C. C'est peut-être une déformation intellectuelle. C'est peut-être parce que vous avez fait des bonnes études. Gloire à Dieu. Mais mon frère, ma sœur, nous avons besoin de la foi. Pour renverser les géants, nous avons besoin de la foi. Les géants, je le dis, sont vraiment impressionnants. Lorsque vous lisez dans la Bible, je ne lirai pas le texte, vous lirez à la maison 1 Samuel 17, c'est un des combats d'un jeune homme contre un géant. Goliath, dont il est parlé, est un des descendants des Anakim, un des géants dans la Bible. Lorsque vous regardez le combat de David contre Goliath, bien-aimé entre nous, en français on dit Goliath n'allait en faire qu'une bouchée. Mais ce que Goliath ne savait pas, c'est que David ne se battait pas avec les armes de ce monde. David en avait fait un combat de Dieu. Il avait dit, tu as insulté l'Éternel et la troupe d'Israël. Le problème de plusieurs d'entre nous, c'est que nous n'avons pas la foi. Nous n'avons que confiance à nos études. Nous n'avons que confiance à notre parcours. Nous n'avons que confiance à la médecine. Il y a des moments dans la vie où vous devez décider quel est le rapport que vous allez croire. Celui qu'on vous a remis hier de la médecine, celui qu'on vous a remis hier, je ne sais, de la justice, celui qu'on vous a remis hier, celui de telle ou telle situation, ou bien vous allez croire le rapport de la vérité de la parole de Dieu. Le peuple était dans ça. Ils étaient balancés entre deux camps. À vrai dire, quand vous lisez la Bible, vous voyez le camp de Josué et de Caleb, c'était un petit camp. Ils étaient que deux. 2 sur 12, ce n'est qu'une minorité. Mais comme le disait le pasteur Vernon, du haut de cette chaire, un homme avec Dieu est toujours une majorité. Vous pouvez être le peu nombreux, mais si c'est vous qui avez la foi, c'est vous qui avez raison et c'est vous qui avez Dieu. Parmi les erreurs des 10 espions, je vais en mentionner 5. La première chose qu'ils ont fait, qu'ils n'auraient pas dû, ils ont effrayé et démoralisé le peuple. Quand ils arrivent, ils démoralisent le peuple. Vous lisez même dans Exode 14, le verset 1, il est écrit que le peuple pleura toute la nuit. Vous finissez de donner votre rapport et les gens commencent à pleurer. Combien de fois ça ne nous est-il pas arrivé dans la vie? Je me souviens, quelques années, je recevais une jeune fille qui venait de recevoir ses résultats de l'hôpital. Elle avait le sida. Je n'ai jamais oublié cela. Ça peut faire 15 ou 16 ans passés, mais je ne peux jamais oublier cela. Elle avait peur d'ouvrir parce qu'elle avait remarqué que le médecin était triste. Alors elle est venue me demander, est-ce que papa, vous pouvez ouvrir pour moi? J'ai dit, mais c'est le secret médical. Oh, je n'ai pas la force d'ouvrir. C'est compliqué des fois ces histoires aussi de conseiller les gens. J'ai dit, bon, ouvre, prions, on prie, ouvre, lisons. Positif. Il y a des rapports quand vous écoutez, bien aimé, vous avez peur. Depuis le jour où on vous a diagnostiqué telle chose, vous tremblez. Vous sortez du cabinet du médecin. Et surtout, la science a tellement évolué et que lorsque vous allez dans les pays où on fait les examens les plus approfondis, ils sont capables de vous dire, votre cancer est au second degré, il vous reste à peu près 3 ans de vie. Donc là, vous avez le compte à rebours qui a commencé. Vous commencez à vous dire, donc moi je vais mourir vers 2022-2023. Mon frère, ma soeur, j'ai une bonne nouvelle pour toi. La réalité, ce n'est pas tout. Au-dessus de la réalité, il y a la vérité de la parole de Dieu. Il y a la vérité de la parole de Dieu. Et je crois que le Seigneur, le Dieu que nous prions, il est celui qui guérit les malades. Il est celui qui guérit de toutes les maladies de la Bible, de toutes tes maladies, de toutes tes maladies. Enfin, c'est celui qui a fabriqué ce corps. Deuxième erreur des 10 espions. Ils ont douté de Dieu et de sa puissance. Ils ont douté de Dieu et ils ont douté de la puissance de Dieu. Ils viennent, mais ils n'ont aucune assurance. Ils sont des enfants d'Israël et ils ne sont pas n'importe qui. Ils sont des chefs de clan. Ils sont quand même mis à la tête. Mais ils doutent de Dieu. Ils ne croient pas que c'est Dieu qui avait donné la promesse. C'est Dieu qui l'avait dit depuis Abraham. Mais vous ne croyez pas. Troisième erreur pour aller un peu vite. Ils n'ont pas fait un travail minutieux. C'est-à-dire qu'ils sont restés dans la superficie. S'ils avaient été dans la minutie de ce qu'ils avaient comme mission, ils ne se seraient pas arrêtés à regarder seulement la taille des fruits et à la taille des habitants. Mais ils allaient regarder aux promesses qui étaient les leurs. Quand vous lisez le texte, ce qui est impressionnant, lorsque les enfants d'Israël reviennent de leur prospection, ils reviennent avec des fruits. Mais ces fruits sont tellement gros qu'ils doivent les transporter à deux. Je ne sais pas si vous avez déjà eu besoin de quelqu'un pour transporter une mangue. Mais vous êtes impressionné. Non, bien aimé, je sais de quoi je vous parle. C'est de l'intimidation. Il y a des situations qui vous intimident. Donc tu viens comme ça, tu viens trouver ces gens-là dans leur façon de vivre. Ils transportent une grosse mangue comme ça. Tu dis, ça c'est la mangue chez vous. Mais ça, c'est quel pays, ça? Les enfants du Seigneur sont intimidés. Les fruits qu'ils devaient ramener, qui devaient être le symbole de la foi, de possession, ça devient de l'intimidation. Ils ont peur. Troisième erreur des 10 espions, c'est que, étant des anciens esclaves, ils étaient restés habités par la peur et la crainte. C'est pourquoi nous chantons, je ne suis plus esclave de la peur, je suis enfant de Dieu. Pendant des générations, Israël a été esclave. Et vous savez, un des problèmes des esclaves, c'est qu'ils sont toujours craintifs. Les esclaves ont peur à tout moment. Même quand ils n'ont rien fait, ils croient que c'est eux qu'on pourchasse. C'est comme dans les salles des classes que lorsque vous avez les dérangeurs, il suffit que le professeur cite son nom. Quelle est sa réaction? C'est pas moi. Parce que souvent, celui qui fait des mauvaises choses ou celui qui est en mauvaise position, il a toujours peur. Enfants d'esclaves peureux, ils sont incapables de croire en la promesse de Dieu. Que Dieu nous aide, que les choses que nous avons traversées, que les choses que nous avons eues à souffrir ne puissent pas nous empêcher de continuer à croire que Dieu peut agir dans nos vies. Et cinquième raison, ou cinquième erreur, c'est qu'ils ont directement rapporté à tout le peuple. En termes de mission de travail. Ils avaient reçu la mission d'aller en prospection du terrain. Mais ce n'est pas tout le peuple qui les avait envoyés. C'était Moïse. Il fallait revenir faire le rapport à Moïse. Mais eux, ils sont comme ces gens qui traitent leurs problèmes en public devant tout le monde. Ils font comme ça, « Ah, Moïse, ah !» Mais ils ne savent pas que le peuple n'est pas capable de porter les choses que Moïse peut porter. C'est pour ça qu'il est très important de savoir respecter les hiérarchies. Il y a des choses qu'on ne fait pas devant tout le monde et qu'on ne dit pas à tout le monde. Je pensais que tu dirais « Amen ». Il y a même des choses que Dieu peut te montrer sur ta vie ou sur ta famille. Ça ne suffit pas que tu dois venir les dire au salon pendant le culte familial. Parce que tout le monde n'a pas la même foi. Il y en a quand le matin seulement on leur dit, j'ai rêvé de toi que tu étais mort. C'est fini cette journée-là. M'a raconté longtemps l'histoire d'une femme qui s'était réveillée un matin. Elle a rencontré quelqu'un qui lui a dit, ça va? Mais on dit, tu es malade, hein? Elle dit, non, moi je vais bien. Elle rencontre une deuxième personne, elle dit, mais hé, qu'est-ce qui ne va pas aujourd'hui? On dit, tu es malade, hein? Elle dit, non, non, moi je vais bien. Elle rencontre la troisième personne, mais aujourd'hui tu es malade, hein? Elle dit, ah, je suis malade. Parce qu'au fur et à mesure qu'elle rencontrait des gens qui disaient des choses négatives, ça commençait à travailler. Bien-aimé dans le Seigneur, il y a des choses que Dieu te permet de voir pour le futur. Mais ce n'est pas à dire à tout le monde. Dis-le à Moïse. Dis-le seulement à Moïse. C'était leur erreur. Ils sont venus le dire à tout le monde et ils vont ainsi infecter le pays. Les hommes deviennent tristes. Ils commencent à pleurer, à déchirer leurs habits. Ils se disent, oh, ils se plaignent même de Dieu. Et pire, nous avons lu au chapitre 14 qu'ils ont décidé de retourner en Égypte. Le chapitre 14, de verset 4 dit, « Ils se dirent l'un à l'autre, nommons un chef et retournons en Égypte. » C'est la rébellion. Se dit, ça ne sert à rien. Ces histoires des terres promises, c'était des illusions. Ces hommes sont venus infecter le peuple. Ils avaient un mauvais langage. Ils avaient un mauvais discours. Pour renverser les géants du péché, les géants de l'incrédulité, les géants du doute, les géants de la pauvreté, les géants de la manipulation, les géants de la sorcellerie, de l'occultisme, les géants du mauvais évangile, les géants de la manipulation, même dans la religion, les géants du rationalisme, bien-aimés, Dieu a un remède, et ce remède, c'est la foi. Si nous avons la foi au Fils de Dieu, si nous avons la foi en ce que Jésus est, en ce que Jésus a accompli, nous sommes du bon côté, et nous pouvons vaincre les géants. Je vais donner quelques conseils sur comment vaincre les géants. En me basant sur le chapitre 14, en son verset 9e, je vais tirer 4 points, voire 5, parce que l'un des points est une répétition, et nous allons parler de cette répétition. Exode 14, le verset 9, « Seulement ne soyez point rebelles contre l'Éternel, et ne craignez point les gens de ce pays, car ils nous serviront de pâture. Ils n'ont plus d'ombrage pour les couvrir. L'Éternel est avec nous, ne les craignez point. » Ça, c'est la promesse de Dieu. Ne soyez point rebelles. C'est mon premier point. Comment vaincre les géants? Je m'adresse à vous qui affrontez les géants de toutes catégories et de toutes sortes. Premier remède pour ce matin, ne soyez pas rebelles contre l'Éternel. Ne soyez pas rebelles contre l'Éternel. Vous savez, il y a généralement plusieurs formes d'incrédulité, dont deux les plus souvent. Il y a l'incrédulité de celui qui ne croit pas en ce que Dieu a dit. Mais il y a l'incrédulité de celui qui ne sait pas ce que Dieu a dit. Les enfants d'Israël, du moins les 10 espions et ceux qui pleuraient, ils sont dans la catégorie des hommes, ils connaissent la parole de Dieu, ils connaissent la promesse de Dieu, mais ils ont délibérément choisi de ne pas croire. C'est pourquoi dans l'Épître aux Hébreux, il est écrit « N'endurcissez pas vos cœurs comme ceux qui l'ont fait lors de la rébellion ». On nous rappelle ces personnes-là. Ce verset que nous utilisons des fois pour l'évangélisation n'avait rien à voir avec donner sa vie à Jésus. Il est question des hommes qui sont déjà dans la foi, des hommes qui sont assis sous les bancs d'église, mais qui ne croient pas en Dieu. Il s'agit des frères et des sœurs qui sont dans la foi, ils croient en Jésus, mais il y a des choses de leur vie. Ils disent non, non, non. Ça, Dieu, je ne pense pas que Dieu peut faire. La rébellion, c'est le fait de se détourner de Dieu. La rébellion du péché. La rébellion de refuser d'obéir, mais aussi la rébellion de refuser de croire. Refuser de croire. Mon frère, ma sœur, je ne sais pas dans quelle catégorie vous êtes ce matin. Le premier conseil, ne soyons pas rebelles contre l'Éternel. Amen. Il y en a qui sont rebelles. Ils savent qu'ils sont dans une position dans laquelle ils ne devaient pas rester. Vous le savez, les prédicateurs ne sont pas là pour commencer à citer les mensonges. Il y a des gens qui disent, tiens, moi je n'abandonnerai ce péché que le jour où je viens à l'église et le pasteur cite mon péché. Bien aimé dans le Seigneur, la vie chrétienne dans sa maturité n'est plus une histoire de 10 commandements, de ne fais pas ceci, ne fais pas cela. C'est le fait d'obéir à Dieu parce que vous l'aimez. Vous attendrez longtemps. Parce qu'il y a tel péché qui n'est même pas écrit dans la Bible. Est-ce que tous les péchés sont dans la Bible? Non, la vérité, est-ce que tous les péchés sont dans la Bible? Non. Nous ne le faisons pas parce qu'il y a un verset qui dit « Il ne faut pas boire telle boisson, prendre telle boisson. » On a mis la marque. Non. Mais c'est la conviction du Saint-Esprit. Et lorsqu'on grandit avec le Seigneur, ça sort des 10 commandements, ça sort même des versets de la Bible, ça devient même quelque chose que tu pouvais faire naturellement, mais le Seigneur te dit, hey, ne fais pas ça pendant 5 jours, mets un peu la nourriture de côté. La rébellion, c'est pas seulement quand vous allez vivre dans l'impudicité. Parce qu'il y a des hommes qui ne sont pas impudiques, mais qui sont rebelles à Dieu. Il y a des gens qui donnent leur dîme, mais qui sont rebelles à Dieu. Il y en a qui sont assis là, à l'église, vous êtes en train de me suivre, mais vous savez, vous êtes rebelles à Dieu. Vous n'obéissez pas à ce que Dieu dit. Premier conseil, ne soyons pas rebelles. Est-ce que derrière votre masque, vous pouvez m'aider à dire à votre voisin, ne soyons pas rebelles. Ah, dites-le comme si vous prêchiez en changeant de voisin, ne soyons pas rebelles. Merci de m'avoir aidé à prêcher. Deuxième conseil, toujours dans ce verset 9, ne craignez point les gens de ce pays, car ils nous serviront de nourriture, de pâture. Ne craignez point les gens de ce pays. N'ayez pas peur. Vous savez, la peur et la foi ont quelque chose en commun. C'est que celui qui a peur, croit. Celui qui a la foi, croit. Celui qui a peur, croit que ce qui est mal va arriver. Et celui qui a la foi, croit que ce qui est bien va arriver. Ce matin, choisis de croire en Dieu. J'ai envie de dire, ne les crains pas. Même s'ils viennent nombreux, ne les crains pas. J'aimerais dire à quelqu'un, ne les crains pas, parce que l'arme la plus sophistiquée de l'enfer peut réussir partout, mais ne réussira jamais sur un enfant de Dieu. Le dernier prototype sorti de l'usine de Satan ne réussira pas sur toi. Ne les crains pas. Parce que ce que l'ennemi cherche à avoir comme avantage sur toi, c'est la peur. Et la peur est aussi un géant. Il y a beaucoup de choses qui nous font peur. Souvent, lorsque vous regardez, je n'ai rien contre mes frères et les médecins, ils sont magnifiques, mais je ne sais pas pourquoi ils ont toujours des mots compliqués pour certaines maladies. Et surtout, ils disent par exemple, maladie de telle, quatrième forme. Donc quand toi-même tu sors du cabinet médical, on te dit tu n'as même pas la première, mais tu as la quatrième forme. Mon frère, ma sœur, tu as peur. Tu as peur. Le conseil de Dieu, ne les crains pas. Est-ce que tu peux m'aider à prêcher, à dire à ton voisin, ne les crains pas. 1 Samuel 17, le verset 46, lorsque David veut se battre avec Goliath, il dit, « Aujourd'hui, l'Éternel te livrera entre mes mains. Je t'abattrai et je te couperai la tête. Aujourd'hui, je donnerai les cadavres du camp des Philistins aux oiseaux du ciel et aux animaux de la terre. Et toute la terre saura qu'Israël a un Dieu. » L'Éternel va les livrer entre tes mains. N'aie pas peur. J'aime beaucoup cette chanson-là de la sœur qui chante « Bakosa les lokote ». Ils ne feront rien. Le diable est expert en intimidation. Le diable est expert en intimidation. Et certaines fois même, et je vais en parler, il y en a qui sont tellement intimidés que le diable les pourchasse dans leur sommeil. Mon frère, ma sœur, n'accepte pas certaines choses. J'ai envie de te dire, même demande à Dieu, Seigneur, que le sommeil revienne, que je rentre encore dans les rêves. Comment ça? Ne pensez pas que tout ce dont vous rêvez, c'est un message de Dieu. Non, c'est faux. C'est le diable. Le diable veut exercer une oppression sur ta pensée et il veut te poursuivre juste dans ton sommeil pour que tu croies que tu es un impudique, pour que tu croies que tu es un moindre, pour que tu croies que tu es quelqu'un qui va mourir. Comme il n'arrive pas à le faire la journée, il va te poussasser même dans ton sommeil. Mais j'ai une bonne nouvelle pour toi. Ne les crains point. Ils vont te servir de pâture. Ceux-là qui pensent qu'ils vont dominer sur toi, ils vont te servir de pâture. Ne regarde pas leur grosse taille. Ne sois pas impressionné par leurs muscles. Ne regarde pas avec les yeux physiques. Regarde avec les yeux de la foi, car chaque géant a sa date d'expiration. Troisième recommandation dans ce texte, ils n'ont plus d'ombrage pour les couvrir. C'est une déclaration fondamentale et même la clé de tout ce texte. Ils n'ont plus d'ombrage. Dans le texte original, littéralement, ombrage, c'est une façon de dire ils n'ont plus de protection. Les hommes, les deux vaillants d'Israël, les bons espions, sont en train de dire, spirituellement, ceux-là que vous êtes en train de craindre, ils sont sans couverture, ils sont sans protection. Tu as l'impression qu'ils sont forts, mais bien aimés, ils n'ont plus d'ombrage. J'ai eu de bonnes nouvelles ce matin, ils n'ont plus d'ombrage. Ils n'ont plus d'ombrage, ils n'ont pas d'antibales, ils n'ont rien, ils n'ont pas de bouclier. Ce qu'ils font, ce n'est que du bruit, ils n'ont plus d'ombrage. Ils sont exposés, la première flèche va les atteindre. Alors je pensais que tu dirais amen. Leur protection a expiré. Et à la croix de Golgotha, Jésus nous a donné la victoire. Et depuis ce jour-là jusqu'à aujourd'hui, nous continuons à croire en ce Jésus qui défie les mondes des ténèbres, en ce Jésus qui donne la victoire sur toutes sortes de situations. Quel est le terrain là où tu es en train d'affronter les géants? J'ai une bonne nouvelle pour toi. Ces géants-là que tu vois, ils n'ont plus d'ombrage. ils ont déjà expiré. Ils ont expiré. C'est comme un serpent dont on a déjà coupé la tête. Mais toi, tu continues d'avoir peur. Avant que la guerre soit physique, avant que la guerre ne soit sur le terrain, c'est un combat qui est dans le spirituel. Et ces deux espions avaient vu dans le spirituel que ces gens-là n'ont plus d'ombrage. J'aimerais que ces paroles résonnent dans ton esprit. Ils n'ont plus d'ombrage. Ils n'ont plus d'ombrage. Ils n'ont plus d'ombrage. Quatrièmement, il déclare, l'Éternel est avec nous. N'est-ce pas là une des grandes bénédictions de la Bible? Emmanuel, Dieu avec nous. Ces gens-là que nous craignons, ces gens-là qui ont une grosse taille, ils ne sont rien devant l'Éternel. Le problème des géants, c'est que lorsque nous les regardons, nous nous comparons à eux, les géants sont grands. Mais si nous les regardons depuis le ciel, là où Dieu les regarde, nous voyons que Dieu regarde nos géants comme ça. Pour Dieu, nos géants sont des nains, mais pour nous, nos géants sont des costauds. J'ai une bonne nouvelle pour toi, l'Éternel est avec nous. L'Éternel est avec nous. Si nous renversons les géants, c'est pas parce que nous sommes nés de familles extraordinaires. C'est pas parce que nous portons un nom extraordinaire. C'est pas parce que nous sommes issus des clans extraordinaires. Mais si nous renversons les géants, c'est parce que l'Éternel est avec nous. Je vais lire rapidement cette promesse d'Ésaïe, chapitre 8, le verset 10. Ésaïe 8, c'est un des versets où la prophétie de la venue de Jésus a été déclarée. Au milieu d'une conversation avec un roi, il y a la promesse que le Messie naîtra. Au verset 10 de ce texte, la Bible dit « Formez des projets et ils seront anéantis. Donnez des ordres et ils seront sans effet car Dieu est avec nous. » Dieu est avec nous. Amen. Dieu avec nous. On n'a pas parlé d'un président de la République, d'un président d'un parti politique, d'un Sénat ou du président des Nations Unies. Dieu est avec nous. Dieu, c'est Dieu, celui qui a créé le ciel et la terre à partir de rien. Rien qu'en parlant, en parlant, en parlant, il a créé ce que nous voyons. Ce Dieu-là est puissant. Il est plus puissant que n'importe quel géant. Et il n'y a aucun de tes géants qui a la taille de Dieu. Et Dieu est avec toi. En ce matin, j'aimerais te dire, Dieu est avec toi. Amen. Arrête de te comparer à ton géant. Compare ton géant à Dieu. Et tu verras que celui que tu appelles géant aujourd'hui et qui te fait peur, il n'est pas grand, mais il est seulement grand pour que tu puisses pas le rater. Cinquièmement, et cela est une redite, il finit encore en disant, ne les craignez point. Est-ce que quelqu'un peut m'aider à dire encore à son voisin, ne les craignez point. Dieu insiste, ne les craignez pas, parce que Dieu sait que souvent nous avons peur des choses qui nous impressionnent. Ne les craignez point, ne les craignez point, ne les craignez point. Ne sois pas rebelle à Dieu. Ne les crains point. Ils n'ont plus d'ombrage. Leur respiration est prononcée. Dieu est avec toi. Ne les crains point. Je finis par ce psaume 6, le verset 3, psaume 61, pardon. Psaume 61, le verset 3. La prière de cet homme, dans certaines traductions, c'est le verset 2. Si chez vous, ce n'est pas en verset 3, c'est le verset 2. Il dit, du bout de la terre, je crie à toi, le cœur abattu, conduis-moi sur le rocher que je ne puis atteindre. J'avais dit, je suis venu m'adresser à ceux-là qui ont l'impression qu'ils ont des promesses trop grandes à porter, des adversités trop compliquées pour être vainqueurs. Est-ce que nous pouvons prier ce matin et demander à Dieu, conduis-moi sur un rocher que je n'arrive pas à atteindre? Je n'arrive pas à être vainqueur. Les géants de la maladie les géants de l'occultisme, les géants du péché, les géants de l'incrédulité, les géants de la mauvaise foi, les géants des plaisirs de la chair, des géants, que des géants sur ma route, donne-moi la foi qui renverse les géants. Les ténèbres ont reculé devant l'œuvre de ma gloire. Yes. Yes.